Quatre empires qui se succèdent, Babel, Paras, Yavan, Romi, vous vous rappelez de cela? Et puis, le cinquième, c'est le royaume messianique. Alors vous voyez qu'on est privilégié, on est à la fin du quatrième empire, et comme par hasard, et c'est vraiment pas une coïncidence, au temps où les juifs se rassemblent en Eretz Israël. Okay, quel moment palpitant nous sommes en train de vivre. C'est clair. Vos descendants, en parlant de vous, diront « c'est héros ». Si vous voyez vos dossiers. On vit déjà le commencement des commencements. Tu te rappelles, on en a parlé hier. Le rassemblement des exilés. Pour le moment, on n'a parlé que de ça. C'est déjà énorme, 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 comme on l'a vu hier. Il y a tout un programme pour arriver au dévoilement de la transfiguration messianique. Ça, c'est beaucoup plus tard. Mais c'est un programme qui commence par un commencement. Ce commencement, par tous les textes, vous les apprendrez en apprenant toute la Bible, c'est d'abord le rassemblement des exilés. Vous avez un panneau là d'un verset du prophète. Je vous ramènerai du nord, je vous ramènerai du sud, je vous ramènerai. La première fois qu'un juif esquimau, c'est pas une blague, est arrivé en Israël, on a fait une fête dans tout le pays. Les esquimaux sont arrivés. Hein? Il y a des juifs esquimaux, bien sûr, et pourquoi pas. Puisqu'il y a des juifs français, je veux dire, lequel des deux est plus exotique l'un que l'autre par rapport à l'hébreu? Faut pas être raciste.
C'est ça.
Oui, je vous donnais un autre exemple. Quand on parlera du problème social en Israël, c'est un problème important, grave, et qu'on vous appelle le parala hevrati. Vous suivez? Le problème qu'on appelle de façon trop schématique Ashkenaz Farad. C'est un problème sérieux, et je vais vous donner un petit éclairage ponctuel. Quand un juif marocain et un juif polonais se heurtent, qu'est-ce qui se heurte? C'est pas le juif et le juif, c'est le marocain et le polonais. Est-ce que c'est clair? C'est bien compris. Par exemple, je sais pas si vous savez, ma femme est polonaise, juive. Eh bien, je vais vous raconter une anecdote de nos fiançailles. Vous savez, quand on est fiancé, on est très sérieux. C'est l'âge de l'adolescence, de l'absolu. Alors on avait de longues conversations pour savoir comment on allait bercer les enfants. En yiddish ou en judéo-arabe. Et c'était une discussion importante. C'est un des problèmes du pays. Alors finalement, on est tombé d'accord qu'on les rechanterait en hébreu. Un point. Ça n'a pas empêché que je l'ai attrapé 40 fois à l'air à chanter en yiddish, je l'ai attrapé à l'air à chanter en judéo. Vous n'avez aucune idée à quel point le chant juif en yiddish et le chant juif en judéo, ça peut être différent. Et les tensions qu'il peut y avoir de tout ce qu'il y a derrière. Okay? Mais d'où vient la différence? Pas des juifs, des goyim. Vous suivez? C'est bien clair. Okay? Ça veut dire, si vous rassemblez des goyim, polonais et marocains, il n'y a pas de maison. L'ONU. Okay? Mais si vous rassemblez leurs juifs, il y a une chance que ça s'arrange. J'ai dit une chance. Les enfants vont bien grâce à Dieu, les petits-enfants aussi. Vous voyez, si c'est à travers leurs juifs, peut-être ça marche. Si c'est entre eux, c'est l'ONU. Voilà, c'est tout notre problème. Le projet de l'impérialisme, c'est l'échec systématique. Le projet messianique, c'est le projet de l'universel humain à travers leurs juifs. Pardon ?
Le rêve.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Je veux dire, ce sera le plus beau.
L'idéal, oui. Oui, c'est le problème de la municipalité israélienne. La municipalité israélienne est un fait messianique. Pourquoi? Parce qu'elle rassemble des hommes venus d'horizons, de paysages, de siècles, de continents radicalement différents, et ça marche. La preuve, c'est qu'il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes. Si c'était des goyim, il n'y aurait pas de municipalité. Vous avez compris le problème d'Abraham, maintenant? Bien. Alors, ça vous donne un éclairage sur le mécanisme de l'exil. Il y a deux moments, comme je vous ai dit, l'aller vers les goyim et le retour en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Je décris, je n'interprète pas. Lorsque Israël éclate dans sa diaspora propre, qui va se greffer sur la diaspora des goyim, apparaît l'identité juive, qui est une identité mixte, judéo-quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le temps de l'exil. C'est clair? un juif qui devient français, un juif qui devient allemand, un juif qui devient anglais, un juif qui devient arabe, un juif, si vous voulez. Enfin, un juif ne devient pas arabe, un juif qui devient oriental. Bon. Et puis, ça m'a toujours frappé, ce racisme des juifs vis-à-vis des arabes. Je prends le cas des Algériens, je connais bien, je suis né là-bas. La majorité des juifs algériens ont décidé d'aller en France quand l'Algérie est devenue un pays arabe à l'époque. Okay? C'est vrai, ils ont voté avec leurs pieds, comme on disait à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'idée d'être citoyen arabe, ça ne leur rentre pas. Citoyen français, oui, c'est du racisme. Ni l'un ni l'autre. Ça, c'est goy et ça, c'est goy. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment du racisme. Alors, je vais faire là-bas. Et tous ces juifs algériens, soi-disant pro-arabes en France, okay, c'est des vrais racistes. Okay. Qu'ils soient pro-arabes en Arabie. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ils ont changé de passeport, c'est pas pour rien. Bon, c'est pas si raciste que ça, ils pouvaient pas faire autrement, il faut jamais calomnier les juifs, je sais. On revient au sujet. Là, attendez, je voudrais terminer cela. Le premier moment, vous voyez, c'est l'apparition de cette identité mixte, le modèle, c'est Aram, à l'origine, c'est clair? Qui est judéo, quelqu'un d'autre. Ça, je vous l'ai dit peut-être en passant souvent, il n'y a pas d'identité juive à l'état pur. Montrez-moi un juif à l'état pur, un juif qui soit que juif. C'est toujours un judéo, quelqu'un d'autre. Judéo-français, judéo-alsacien, judéo-algérien, judéo... Ça n'a rien, tout ce qu'il y a. C'est vrai ? L'hébreu, c'est un hébreu, un point. Tandis que le juif est toujours l'identité mixte, c'est clair. Alors, dans le premier moment, il y a cette universalisation de l'identité juive. Le deuxième moment, c'est le retour. Mais qui revient avec les juifs ? Les identités goy, qui entre elles ne pouvaient pas s'unifier, et qui, à travers leurs juifs, peut-être, engendreront dans la municipalité israélienne le fils de l'homme dont parlent les prophètes. J'ai compris ce qui se passe. Je ne sais pas si je vous ai décrit cela dans la maison où j'habite. Il y a vraiment une mosaïque, c'est le cas de le dire, de juifs d'origine différente. Mon voisin de palier, c'est un Écossais. Je vous ai parlé de lui. Je n'ai aucune idée à quel point, chaque fois qu'on se rencontre sur l'escalier, la question apparaît. Lequel des deux est exotique ? Imaginez aux yeux d'un Écossais, qu'est-ce que ça peut être un Français ? Un mangeur de grenouilles cachère, en plus. Et bien, c'est, les deux sont exotiques réciproquement. Vous comprenez ? Il ne faut pas avoir une équation chauviniste. Que être juif, ça veut dire être juif français, les autres, c'est des étrangers. Okay. C'est bien clair. Rappelez-vous l'histoire des British. Et aujourd'hui, je connais beaucoup dans les provinces françaises, des juifs qui sont pris par cette tentation du patriotisme local. J'ai connu des terroristes alsaciens anti-français, des juifs, parce qu'ils étaient alsaciens, okay, autonomistes alsaciens. Okay. Et je connais aujourd'hui, vous connaîtrez peut-être, des juifs corses. Vous comprenez? Pourquoi pas? C'est clair? Bon, alors, c'est très bien, à condition que leur projet messianique, c'est de ramener les valeurs de la Corse en Israël.
Il n'y a pas du tout de juifs qui sont tout le temps restés de génération
en
génération.
Très peu. En Israël, oui. Une famille à Pikrin. En français, ça s'écrit Pékin, d'ailleurs. Un village où ils parlaient araméen, ces juifs-là, j'en ai connu un. Hein. D'ailleurs, mais très très peu. Tous les autres ont été pratiquement convertis de force à l'islam au cours des siècles. Bon, alors vous comprenez le problème ? Ça va jusque-là ? Donc. Alors, on a répondu à notre première question, la dernière qui nous restait du cours précédent, c'est pourquoi, comme fatalement, les universalismes basculent dans des impérialismes. Ça y est, c'est clair? D'autre part, il y a le projet messianique à partir d'Abraham. Et alors, apparaît une identité humaine très particulière en relation avec l'universel humain. C'est pas un parmi les goyim. Aujourd'hui, je vous ai donné une dimension de cela pour l'éclairer, la capacité de l'exil. Aucun peuple n'a eu cette histoire-là, c'est-à-dire pouvoir attester de l'universel humain, qu'un juif peut être absolument n'importe quelle manière d'être homme. Si vous rencontrez des juifs d'autres pays que la France et que vous en discutez de cela, vous ne pouvez pas ne pas avoir cette expérience que j'ai eue mille fois. Disons par exemple pour un juif allemand, l'homme c'est l'allemand, tous les autres c'est exotique. Okay. Par conséquent, Israël se doit être juif allemand. Nous sommes tous des juifs allemands, vous rappelez de ça. Pourquoi? Parce que c'est son goy à lui. Les autres goy, c'est pas sérieux. Okay. Un vrai goy, c'est un allemand. Vous comprenez le problème. La même chose pour les Français. Qu'est-ce que c'est que le goy? C'est le français, mon goy. Okay? Mais l'autre goy, oh, c'est pas ça. Vous avez compris ça? C'est vrai que c'est comme ça. Okay? Ça veut dire qu'il y a un patriotisme local exacerbé. Ça m'appelle, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Lanzmann sur Israël et les Juifs. Comment il s'appelle ce...
Pourquoi Israël ?
Je me trouvais à Paris par hasard au moment où il passait à Paris, et puis j'ai pu dégager une soirée pour aller le voir. Il y avait des Algériens derrière moi, ils ne savaient pas que je comprenais l'Algérien. Alors en tout cas, c'était une scène qui m'a frappé dans ce film. J'ai vu ce kaléidoscope de différentes manières d'être homme, et tout ça c'est Israël. Okay? C'est un peu de ça dont je vous parle. C'est quand on a mis en scène les fondateurs de l'université hébraïque, qui sont des Allemands. Et alors, il y en a un qui a eu un lapsus. Et il a dit, quand nous avons fondé l'université de Jérusalem, il parlait de l'université de Berlin. Vous reverrez le film et vous le verrez. Au propos des Algériens, je crois que vers les trois quarts du film, il y en a un qui a dit à l'autre, ceux-là, on les pourra jamais, là, on s'en va. Ils sont trop. On les pourra jamais, c'est de l'Algérien. On ne pourra jamais contre eux. Imaginez le choc de quelqu'un qui voit ce film-là, qui n'est pas juif, et qui voit qu'être juif, ça peut être les valeurs de n'importe quelle nation. Okay? Et tout à la fois. Vous suivez? Et ça engendre la panique. C'est clair? Bon, alors voyez, qu'est-ce que doit faire Abraham pour passer de Aram à Abraham? Un peu ce que nous avons à faire, nous. Se débarrasser de son équation spécifique, trop spécifique, de sa juiverie propre. Pour rejoindre l'identité hébraïque. C'est clair ? C'est un des obstacles à la Aliya d'ailleurs, puisqu'on parle de cela. Parce qu'il faut, au nom d'une fidélité plus haute, renoncer à une fidélité partielle. Parce que pour redevenir hébreu, il faut ne plus être juif français, juif anglais, juif allemand. Tout en l'étant quand même, mais renvoyer ça dans l'inconscient. Vous avez compris le problème ? Et souvent, ça joue comme obstacle à la Aliya. Comment, avec tant d'efforts, on a pu se composer une identité de stratégie politique de survie judéo-français et en avoir le privilège, et vous voulez qu'on abandonne cette fidélité marane-là pour ah, laisser ça en rêve, okay? L'année prochaine, quand le Messie viendra. Vous voyez comment ça risque de jouer souvent, c'est clair? Bon, ben, je ne pensais pas qu'il nous fallait trop de temps pour élucider cela, j'espère que c'est suffisamment élucidé, ok? Alors on va aborder Adam et Lot. C'est le même problème, mais dans la Bible. Ah, attendez, monsieur avait une question.
J'ai une question. Si l'arabe, ça ne s'édifie pas dans le cas d'ici, si la vie de musulman.
De
musulman.
Non, pas du tout. Et, non. Le musulman, c'est finalement la lignée d'Ismaël. C'est un profil beaucoup plus caractérisé. Là, vous avez dans certains auteurs allemands, d'ailleurs, antisémites, comme par exemple Splenger, si vous l'avez lu. Oskar Splenger, ça vous dit quelque chose? Il a écrit Entre les deux guerres, un livre très important de philosophie de l'histoire, et qui dit que les Hébreux, finalement, ce n'est qu'une branche dissidente des Arabes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un flirt entre les Allemands et les Arabes qui est un problème pour lui-même, d'ailleurs.
Je veux dire, vous allez nous parler de...
Ah oui, alors tu m'apportes le livre que tu m'as pas porté hier. Oui, tu as très bien fait de me rappeler ça. C'est une annexe au schéma des quatre empires. Alors, notez dans un coin de page, vous me le rappellerez quand on reprendra l'étude de Hanouka. Que je vous parle de cette référence dont j'ai parlé tout à l'heure, à partir d'un des versets de la Bible, on voit le développement nécessaire des quatre empires successifs, le cinquième étant le royaume messianique. Vous rappellerez de ça. Alors voilà, le Maharal, ce livre, il l'a consacré à Purim et à Hanouka. Ner Mitzvah, c'est Hanouka, et Or Hadash, c'est Purim. A posé la question suivante. Je vais retrouver la page. Ça s'appelle donc Ner Mitzvah. Oui. Il dit, je vais vous lire le texte et vous le traduire d'ailleurs. sentirait mieux l'organisation du raisonnement, il se pose la question, et où situer l'empire d'Ismaël ? Puisqu'il n'y a pas de doute que Ismaël a bâti un empire colossal. Vous savez cela ? À partir de l'Arabie, finalement, il y a un continent entier, plusieurs, ça se partage sur plusieurs continents, de l'expansion arabe, et c'est un véritable empire, l'empire de l'islam. Vous savez à quel point c'est un des empires les plus puissants. Peut-être pas pour longtemps, ça dépend des puits de pétrole, finalement, ça dépend de la richesse en pétrole, c'est un des empires les plus puissants, et que la tendance à l'expansion de l'islam est déjà annoncée dans la Bible. Elle est irrésistible, je ne sais pas comment dire. D'ailleurs, aujourd'hui, de notre temps, l'islam a repris son histoire telle qu'elle s'est arrêtée à Poitiers. Ils sont arrivés jusqu'à Poitiers, l'Occident les a refoulés, mais maintenant ils achètent l'Occident entier, vous savez cela. Vous suivez ces choses-là. Bon, on connaît la suite, rappelez-moi le verset, je vous le donnerai aussi, dans les bénédictions d'Ishmaël. Alors, le Maharal pose la question suivante. « Ve'echam ramaz malchut Ishmaël » Et où est-il fait allusion, remez, allusion, à l'empire d'Ishmaël ?« Shehi malchut rabata v'takifa » qui est un empire grand et fort, agressif. Tshuva shel azot, la réponse à cette question, Mashelo zacha malchut Ishmael, le fait que nos sources ne citent pas l'empire d'Ishmael, et ils citent les quatre empires, Babel, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Rome, vous vous rappelez, qui, lo yachasheva katuv, raka malchut shekiblu malchut kadishin elyonim, sheyachshu me malchut Israël. C'est-à-dire, on ne cite que les empires qui ont usurpé la souveraineté à Israël. Alors que, là je résume un peu l'explication, Ishmaël a ses propres bénédictions, comme vous l'étudierez dans le texte. Lorsque Ishmaël fonde son empire, ce n'est pas usurpé d'Israël. Tandis que les quatre autres empires, leur souveraineté, elle est usurpée d'Israël. Et la souveraineté d'Israël ne se retrouvera qu'au cinquième moment dans le royaume messianique. C'est clair ? Jusque-là. Et alors, il ajoute une phrase extrêmement, extrêmement étonnante. Veyoter nira, l'Omar, et ce qu'il apparaît le plus vraisemblable de dire, et je vous signale que le Maharal a vécu au temps de la Renaissance, il n'est pas du tout au courant du chrominisme. Alors, suivez. Veyoter nira, l'Omar, et ce qu'il y a de plus vraisemblable à dire, Kishmael hu bichlal malchut paras. Kishmael, c'est l'empire de Perse. Voilà, c'est écrit en toutes lettres. Alors ce n'est que de notre temps que le caractère résolument, irrémédiablement impérialiste de l'universel de l'islam se révèle d'Afra en Perse avec le communisme. C'est déjà indiqué dans le Maharal. Et on se demande d'où il sait ça. Par contre, son temps, il n'y avait aucune évidence possible, expérimentable, que finalement l'agressivité impérialiste de l'islam éclaterait en Perse.
Il ne l'explique pas
comme Non. Il nous dit ça comme quelque chose qui va de soi. Il est possible qu'un jour on trouve des manuscrits perdus du Maharal où ils en expliquent plus. Mais à ma connaissance, en tout cas, c'est la seule source qui indique cela. Donc vous avez ce schéma des empires avec son annexe. Ishmaël a son empire propre, mais le Maharal a donné une explication très claire. On ne le compte pas parmi les quatre empires parce que lui a ses bénédictions propres en tant que fils d'Abraham. Sa rivalité avec Israël est d'une autre nature. Elle n'est pas du type Nimrod. Nous verrons que sa rivalité avec Israël porte essentiellement sur la terre d'Israël. Je vais vous faire deux autres schémas d'introduction. Il faut quand même qu'on arrive à parler de Lot un de ces jours. Hein. Mais prenez ces deux schémas quand même, ça nous avancera.
Moi, j'ai une question.
Voilà, c'était ta réponse.
Je ne peux pas poser une question, j'avais oublié tout à l'heure.
Oui, tu peux.
Comme Abraham de passer à Aram à Ivry, on lui a changé de nom, je veux dire.
Non, Abraham passe de Aram à Ivry, oui. Ouais. Alors c'est indiqué par le changement de nom d'Abraham à Abraham.
Ouais, c'est ça. Et je veux dire, au niveau de nous, ça veut dire si on. Finalement, on a une autre identité.
Vous permettez que je.
On a une autre identité en.
Écoutez, je veux dire, je vais dire ça. Je vais répondre à ta question sous forme d'illustration. En vous donnant mon cas personnel, c'est celui que je connais un peu mieux. Voilà, je me rappelle quand j'étais enfant, juif, enfant en Algérie. Je veux dire comment je me vois dans la maison de mon grand-père, très à l'aise dans ma mémoire. Voilà. Chez nous, une ville pas loin de l'Espagne, alors là, comment ça se passait l'identité? On parlait l'arabe, c'était la langue du pays. Et on lisait le français, parce qu'on était cultivés. Et puis on priait en hébreu, l'hébreu des prières. On pleurait en espagnol, et on s'insultait en maltais, parce que les marins étaient italiens-maltais. Ça faisait une identité culturelle, composite, nuancée, très riche, dont vous n'avez aucune idée. Disparue complètement. Ça ne se transporte pas à Sarcelles, ni à Marseille. Et il faut prendre acte. Pardon ? Parle plus fort. Oui. Et alors, ça se transmet comme une dimension artificielle greffée sur le sort marseillais. Ça devient du folklore, et le judaïsme, ce n'est plus que du couscous du Maroc espagnol. Et le couscous, c'est même pas un mot arabe, c'est un mot berbère en Camargue. Je ne sais pas si vous savez. Le mot originel, c'est kchkcho, c'est du berbère.
Alors les Juifs, quand ils vous invitent chez eux, ils viennent passer Shabbat. Il vient manger
couscous. Bon, mais tout ça, c'est très touchant, c'est des valeurs, c'est très riche comme valeurs culturelles, folkloriques. Mais il faut bien savoir que toutes ces juiveries transplantées de leur territoire deviennent artificielles. Qu'est-ce que ça veut dire être sfarade en France? La France est un pays ashkénaze. Et la preuve, c'est que vous avez des écoles en France, des écoles juives, le directeur est sfarade. La majorité des professeurs sont sfarades. Tous les élèves sont sfarades, mais le rite est ashkénaze. Vous avez remarqué ça? Comme par hasard. Alors, qu'est-ce qui reste? Le couscous. Alors, je reviens en tout cas au... c'est pas une anomalie, c'est l'histoire qui travaille comme ça. Ça veut dire que les sfaradines d'Afrique du Nord ont choisi les pays ashkénazes. Ils finiront par devenir ashkénazes. Et puis, rassurez-vous, c'est la même chose. Quand quelqu'un fait sa alia, qu'il soit ashkénaz ou sfarade, ça fait un israélien. Alors, on revient au problème. Les ashkénazes. Ils sont les exilés du premier temple. Les Sfaradim, c'est les exilés du deuxième temple. Donc, ils sont plus israéliens, si vous voulez, d'origine. Bon, enfin, de ça, on parlera un autre jour. Je veux dire, le rite ashkénaze est plus ancien, quelles que soient les apparences paradoxales. Ça, on a appris une fois au début de l'année. Attendez, rappelez-moi de quoi je parle maintenant tout de suite.
De vous.
Hein?
De vous.
Ah oui, oui. Après, demain, je vais vous parler de mon grand-père. Alors imaginez, vous ne pouvez pas imaginer d'ailleurs, ça ne s'imagine pas, ce qu'était la vie juive en Algérie, et encore c'était très nuancé, le Constantinois, c'est pas l'Algérois, c'est pas l'Oranie, Tlemcen, c'est pas Palikao, et comme Addis Abeba, c'est pas Waterloo. Bon. Et alors, c'était très, très nuancé, très, une espèce de symbiose qui a mis des siècles pour se constituer, et c'était ça l'identité juive, de la juiverie particulière, multipliée ça par 100 000 manières d'être juive dans le monde. Ça, c'est la diaspora, c'est clair. Quand vous visiterez le musée de la diaspora, vous visiterez un musée où on vous rassemble 120 peuples juifs différents. Okay, imaginez les sous-sections. Et puis, je suis très à l'aise dans cette identité juive-là, dans ma mémoire, parce qu'elle a disparu. Il faut prendre acte, c'est dommage. On l'étudiera dans les musées, dans les folklores, on fera des thèses de je ne sais pas quoi, ça donnera à manger à des savants, mais ça n'existe plus. C'est clair. Donc. Et puis, aujourd'hui, je vois mes petits-enfants qui sont nés dans le pays. Et eux, ils sont hébreux. Et je suis très à l'aise dans leur monde. Donc, je suis privilégié. Parce qu'eux ne connaîtront jamais le monde de quand j'étais, moi, chez mon grand-père. Eux, chez leur grand-père, ne connaîtront jamais le monde de moi, chez mon grand-père. Et à chaque fois que je leur raconte ma vie de juif d'Algérie, ils sont passionnés. C'est tout juste, si ce n'est pas provoqué comme ça, Saba, raconte-nous la préhistoire, raconte-nous les dinosaures. Ils sont émerveillés, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est que ces créatures-là? Tu étais toi comme ça, toi. Alors, vous voyez, dans les deux mondes ont leur cohérence propre. Seulement, il y a une asymétrie. C'est que mes petits-enfants ne connaîtront jamais le monde de mon grand-père. C'est fini. Alors que mon grand-père rêvait au monde de mes petits-enfants. Vous voyez le décalage. Est-ce que c'est clair? Voilà la différence entre l'identité haram, la juiverie, et ce n'est pas négatif comme mot, et d'autre part l'identité hébraïque. Alors le passage d'Abraham à Abraham, c'est ce que nous vivons, nous, dans la Aliyah. Et ça prend du temps. Ne croyez pas que ça se fait comme ça, tchik-tchak.
C'est dans la douleur.
Ma
vous n'êtes pas triste de perdre
Moi, je l'ai gardé. Alors, mais dans ma mémoire, okay, c'est pas moi qui l'ai perdue, on l'a détruite. Okay. Mais ceci dit, c'était une identité de fidélité provisoire. Et c'est le sacrifice à faire pour arriver à la fidélité authentique, qui donnait son sens à cette fidélité provisoire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que très souvent, cette fidélité partielle fait obstacle à la alia. Comment il faut abandonner ça? Mais qui t'a dit d'abandonner? Tu l'emportes avec toi. Et d'ailleurs, il y a un projet messianique important, parce que tu emportes avec toi la manière d'être goy de tes goyim. Et tu, à travers toi, ça rentre en Israël. C'est clair? C'est le deuxième moment. Vous vous rappelez, diastol, systol. Voilà, diaspora, si. Ah, vous avez compris. C'est pas plus compliqué. Voilà comment ça marche. Et lorsque les juifs reviennent, ils ramènent avec eux l'universel humain. Retenez d'où on est parti, la formule est très simple. Quand deux juifs de tribus différentes se heurtent, c'est pas les juifs qui se heurtent, c'est les goyim qui sont derrière. Imaginez une municipalité où il y aurait des représentants de toutes les nations, de siècles différents et de mentalités différentes, ça éclaterait. Bon, la municipalité israélienne, c'est plein de problèmes, il n'y a que des problèmes. Voilà, c'est compris pourquoi ces problèmes sont sérieux. Parce que nous sommes en train d'essayer de résoudre en laboratoire le problème de l'universel humain. Faire vivre un Écossais et un Français. Alors, pourquoi c'est possible? Parce qu'en réalité, ils sont ni Écossais ni Français. C'est clair? Parce qu'ils sont hébreux. Dans la matrice hébraïque, toutes les identités humaines s'engendrent dans un creuset qui donnera un type d'homme réunifié. Alors, vous comprenez pourquoi il y a des luttes de tendance? Parce que chacune tend à être impérialiste par rapport aux autres. Actuellement, la tendance la plus impérialiste en Israël, c'est laquelle? Non, pas, c'est pas si simple. C'est la tendance des juifs américains qui sont les plus impérialistes. Et c'est eux qui imposent leur manière d'être. Okay. Si tu n'es pas d'équation juive américaine, on te regarde comme un juif bizarre. Okay. Les Américains sont ça? Il y a les deux, mais la majorité sont des Ashkenazim. Ce n'est pas un problème d'Ashkenaz et Sfarad. C'est le type de culture d'où ils viennent, qu'ils tendent à imposer. Et vous n'avez aucune idée, comme les modèles culturels américains sont très spéciaux, mais c'est un des modèles humains possibles. Or, les circonstances ont fait que ils sont les plus riches, alors ils tendent à imposer leur modèle, comme si ça va de soi. Par exemple, vous savez que c'est un Varda Bait, le comité des locataires, je ne sais pas comment on dit ça en français. Comment on dit ça en français? Comité des locataires. Alors, moi, je suis le seul qui ne parle pas anglais. La seule famille où la langue culturelle n'est pas l'anglais dans l'immeuble. Tous les autres ont toute leur langue, plus l'anglais. Top. Alors, de temps en temps, il y a des communiqués en anglais. Il y a un scandale chaque fois. Mettez-moi ça en hébreu, parce que moi, je ne lis pas le tchécoslovaque. Vous avez compris? Mais pour eux, ça va de soi. Qu'est-ce que c'est ça, un juif qui ne comprend pas l'américain? Vous y êtes? Bon. Alors, ça y est. Je vous ai donné.
Par exemple, je suis juif, vous avez vos petits-enfants, ils sont hébreux.
Ah oui, c'est très différent. Il ne s'agit pas du contenu des valeurs. Il s'agit du statut sociopolitique. Un juif, encore une fois, c'est un hébreu à l'étranger, c'est un hébreu qui est greffé sur un paysage étranger et qui finalement, avec le temps, se forge une identité mixte du judéo-quelqu'un d'autre. Tandis qu'un hébreu, c'est un hébreu. Et s'il est au courant d'une langue étrangère, il est enrichi par une langue étrangère, culture. S'il est au courant d'une culture étrangère, il est enrichi par une culture. Mais c'est un hébreu qui connaît le français.
Avec les rabbins qui sont
hébreux. Parmi les juifs, il y a quelques rabbins qui sont quand même comme ça hébreux. Mais en général, oui. Et le juif est un hébreu en potentiel, Abraham. Il faut qu'il devienne Abraham. C'est clair? Comme l'araméen doit redevenir hébreu. Mais pourquoi vous mettez si longtemps à enfoncer des portes ouvertes? C'est clair, ça va de soi. Je vais te dire, faites une distinction, quand vous dites juif, entre l'allusion aux valeurs du judaïsme, et les valeurs du judaïsme n'ont jamais été qu'hébraïques, okay, et d'autre part le statut sociopolitique du juif, qui est le juif de la diaspora. Ça va jusque-là? C'est bien clair. Okay. Ce que je veux vous mettre en évidence, c'est que cette histoire nous est déjà racontée. C'est l'histoire d'Abraham quittant la Mésopotamie, et il est appelé, notez la référence, chapitre 14, verset 13, et vérifier si c'est bien ça. Chapitre 14, verset 13, il est appelé Abraham à Ivry. Abraham l'hébreu. C'est bien ça, chapitre 14, verset 13. C'est ça, hein? Oui. Abraham, l'hébreu. Alors, toute cette histoire des trois générations, mais ça commence avec lui, c'est le passage de l'identité arabe au dévoilement de l'identité hébreu. C'était un hébreu en exil. Je sais pas, je vais dire ça de façon peut-être un peu simplifiée. Pour répondre à ta question, les Israéliens sont d'origine juive, au niveau du statut sociopolitique, pas au niveau des valeurs. Okay? Et sont d'origine juive. Au niveau des valeurs, ils sont juifs, parce que les juifs, c'est des hébreux, au niveau des valeurs. Attends, je finis. Mais les juifs de diaspora ont oublié qu'ils étaient d'origine hébraïque. Si vous étiez italien, j'aurais moins de difficultés. Parce qu'en italien, pour dire juif, on dit hébreo. Vous savez cela? Alors qu'en français, on dit juif, c'est-à-dire judéen. Le mot de juif, c'est du latin corrompu à partir de judéen. Okay? Mais les Judéens, c'était des Hébreux. Okay? Alors, est-ce que c'est bien clair? Mais on a mis trois cours pour élucider ça, mais je crois que ça valait la peine. C'est-à-dire, l'identité juive s'est toujours connue comme anormale, provisoire et catastrophique. Un juif s'est toujours connu comme ça. Un juif s'est toujours connu dans un temps provisoire entre deux temps hébraïques. Celui de l'antiquité hébraïque détruite par Rome et la reconstitution de la nation hébraïque en espérance d'un monde mieux. Alors cette nation hébraïque arrive et les juifs ne savent plus qui ils sont. Ils ont oublié qu'ils étaient d'origine hébraïque en vue de redevenir des hébreux. C'est plus clair maintenant ?
C'est le chapitre 17, verset 5.
Quoi donc ?
Le changement d'Abraham.
Oui, ça, le changement d'Abraham, Oui, c'est dans trois semaines, ça. Mais qu'on y arrivera à cette allure. Mais je vais vous citer l'expression Abraham à Ivry. Ça va jusque-là ? Bon, je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant. Le mot israélite, oui, c'est à la Révolution française, à l'émancipation, quand, ça je vous parlerai plus en détail après vos cours d'histoire, quand Napoléon, mais en fait c'était la première république qui avait commencé le problème, a voulu trouver un statut aux juifs habitant le territoire de France, on en a parlé un peu hier, alors on a forgé la confession religieuse israélite pour annuler l'idée de la nation juive. C'est clair ? Jusqu'à Napoléon, un juif, ça voulait dire, il y a des actes sur parchemin, parfois j'en ai vu un, des actes d'achat de cimetière ou d'achat de synagogue du temps des rois, à la Bibliothèque nationale à Paris, des actes qui désignent les juifs comme les membres de la nation juive en exil. Et Napoléon a finalement trouvé, c'était un génie d'ailleurs, il voulait s'annexer les juifs à l'identité française. Il a réussi. Et il a trouvé la formule, ce sera des Français de religion israélite, comme il y a des Français de religion catholique et des Français de religion protestante, et maintenant des Français de religion musulmane. Alors prenez par exemple un Harki qui vient en France. C'est un authentique arabe, arabe algérien d'origine, citoyen français de religion musulmane. Vous croyez qu'il se prend pour un Français ? Qui se trompe ? Alors le Harki, non, mais le juif, oui, le racisme. Oui, c'est bien clair. Hein ? Voilà. Alors, c'est pas simple d'être juif. On raconte de... Une minute. Vous avez dans vos livres avec Rachid, vous avez la traduction en araméen qui s'appelle Onkelos. Vous l'avez appris dans votre biographie ? Oui. Hein ? Pas encore ? Le mot Achilleus, c'est un grec. Et... ça vient de Achilleus en grec. Alors, on raconte qu'il était un des légats de l'empereur romain. C'est qu'est-ce qu'un légat ? Un envoyé, hein ? Oui. Un messager de l'empereur romain qui devait s'occuper de la Judée, occupée par les Romains. Alors, il y avait l'habitude en ce temps-là, chez les empereurs romains, ils envoyaient leur héritier présomptif faire leurs armes, leurs premières armes, comme on dit, dans l'Empire. Et celui-là, l'empereur, je ne sais plus quel empereur c'était, ça me reviendra peut-être, l'a envoyé en s'occupant de la Judée, et puis ils avaient l'habitude de leur donner un conseil politique avant de les envoyer. Ils partaient pour des années et ils revenaient ensuite enrichis de leur expérience à Rome. Alors celui-là, le conseil qu'il avait reçu, c'était, voilà, si tu vois une affaire qui marche, ne t'en occupe pas. Mais si tu vois une affaire qui marche pas, occupe-t'en, parce que tu peux l'arranger, et, tandis que l'affaire qui marche, elle n'a pas besoin de toi. Donc, un conseil politique. Alors, Apilavou, cela est arrivé en Israël, il s'est converti au judaïsme, bon, des péripéties qu'on vous racontera peut-être un jour, et il revient à Rome, et l'empereur, il dit, tu t'es fou, juif, t'es devenu, imaginez pour un romain, il dit, écoute, tu te rappelles le conseil que tu m'as donné, j'ai trouvé la pire affaire qu'il y a au monde, je m'en occupe. Oui, c'est pour vous dire que l'histoire juive, c'est pas simple. Surtout que nous sommes dans un temps de charnière. Nous ne sommes plus dans le temps de la diaspora pure et simple, où la réalité de l'identité juive, c'était l'identité de stratégie provisoire de l'exil pour pouvoir survivre, l'hébreu se camoufler en tout ce que vous voulez, juif comme ça, juif autrement. C'est une identité de camouflage, okay, de survie politique. Et maintenant, déjà, l'identité hébraïque ressurgit. Alors on est comme ça, tiraillé. Vous avez compris le problème ? Bon. Quelle heure il est ? Si.
Moins d'1h30.
Eh bien, ça y est, on a fini. C'est-à-dire, on n'a pas commencé. Ça ne m'étonne pas. Bon, vous avez 3 minutes.
Bien. Actuellement, on est face à quel empire ? Édom et Ishmael et la Perse.
Édom. Édom.
Ishmael.
Du point de vue des empires, c'est Édom. Du point de vue de la rivalité sur la terre, l'exil de ces 2000 ans s'appelle l'exil d'Edom. Il a un appendice qui s'appelle Ishmael. Mais par rapport au problème d'Israël, Edom et Ishmael ont une alliance contre nature, mais une alliance dirigée par Edom. Je pense que c'est clair. Vous pouvez diagnostiquer cela. Le principal allié de l'Arabie saoudite, c'est l'Amérique. C'est pour ça qu'on a tellement de problèmes avec Ishmael. Tant que l'Amérique a intérêt d'être alliée de l'Arabie saoudite. Vous comprenez ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, quand nous arriverons à la rivalité Ishmael-Israël, nous verrons que l'objet de cette rivalité, c'est la terre. Nous n'avons pas de conflit théologique avec l'islam. C'est un conflit politique. À qui appartient la terre d'Abraham? C'est clair? Alors qu'avec Ésaü, qui est le principe de la chrétienté, nous avons un conflit théologique, pas tellement un conflit politique. En fin de compte, la société chrétienne vous donnera la nationalité que vous voulez, mais pas le ciel. Okay? Tandis que dans l'islam, c'est exactement l'inverse. Le ciel, c'est la maison de ton père. Je me rappelle les Arabes me parler comme ça. Mais la terre, ah non, la terre, on te l'a enlevée. Alors les Juifs sont restés sans terre ni ciel. Okay? Et finalement, ils sont restés à l'horizon. Et alors, finalement, un jour, les Juifs ont réclamé le ciel de leur terre et la terre de leur ciel. Le monde entier est entré en transe. C'est ce qui se passe.
Et bien, justement,
on lira cette histoire dans la Bible. Mais pour le moment, il ne s'entend pas. On lira cette histoire dans la Bible. Elle nous est racontée dans la Bible. Comment ça commence, comment ça se développe, comment ça finit. Mais retenez bien que c'est ça le problème que nous avons avec l'islam. Alors que le problème que nous avons avec la chrétienté est tout à fait autre. C'est qui est Israël? Est-ce que c'est Ésaü? Est-ce que c'est Jacob?
Et aujourd'hui, le premier ministre,
c'est Ishmael. Non, c'est Ishmael. Nous en avons l'Empire. Je réponds à ta question. L'Empire, c'est l'Empire d'Occident. Et c'est l'Empire de Rome. Et avec comme principal pion politique actuellement, l'Amérique, c'est tellement évident. Regardez votre plan là-bas, vous verrez les grands centres juifs. Le centre contemporain, c'est Israël et l'Amérique. Okay. Mais Ishmael a sa propre rivalité. Je vous expliquerai ça plus tard, lorsqu'on arrivera avec Ishmael. Il a son propre dossier de revendication sur la terre d'Israël. Ça commence avec Ishmael et Isaac, comme nous le verrons. Et nous verrons dans les récits comment ça se termine. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça se termine bien. Mais pour le moment, le conflit est absolu. C'est bien clair. Et là, par exemple, les musulmans vous diront, cette terre nous appartient. Pourquoi? Parce que vous l'avez conquise. Non, c'est pas tellement ça. C'est parce que Mahomet a rêvé que sa jument ailée s'envolait de l'esplanade du temple. Voilà pourquoi ça ne va pas. Je répète, Mahomet a eu un rêve où il a vu dans son rêve que sa jument avait des ailes et qu'elle s'envolait du temple. Donc le pays ne va pas. Quelle logique il y a là-dedans ? Aucune. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Pensez bien qu'une tradition aussi colossale que l'islam ne va pas raconter des bêtises. C'est clair. L'argument officiel, c'est celui-là. C'est un lieu saint pour l'islam, parce que Mahomet a rêvé que c'est de là que sa jument ailée s'envolait. Je ne sais pas si elle s'appelle Barak ou Bazak, la jument. Et je ne sais pas si vous avez compris. Je vais raconter une petite anecdote et puis vous irez déjeuner. Je vous rappelle avant cela que mercredi, vous avez cours avec moi, puisque vendredi, vous n'avez pas cours. C'est clair, puisque vous êtes libre, c'est Shabbat. Bon, toutes les soirées, c'est comme d'habitude. Il n'y a pas de nuit d'études cette semaine, vous êtes, je suppose, encore trop fatigué. On attendra le printemps. C'est-à-dire, oh, le printemps, vous êtes fatigué. Le printemps ici, c'est un choc. Mais on verra. Et vous avez encore ce soir le cours du calendrier. Okay. Bon. Alors voilà, il y a une sourate. Vous savez, c'est une sourate, disons une paracha dans le Coran. Il y a à peu près la formule suivante. L'islam ne passera pas, pas plus que les. Sinon, quand les poules auront des dents. Non, c'est grave. L'islam. Dans le Coran. L'islam ne passera pas. Attendez, non, ça vient après dans la suite, dans l'histoire. L'islam ne passera pas. Pas plus que les hommes n'arriveront sur la Lune. C'est un verset du Coran. Alors, quand les Américains sont arrivés sur la Lune, et puis je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque, c'était à peu près l'époque où les Juifs sont arrivés à Jérusalem. Et les astronautes, qui n'étaient pas des Juifs d'ailleurs, ont chanté les psaumes d'arriver sur la Lune. Et alors, un journaliste a posé au recteur de l'université du Caire une question apparemment naïve. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire de cette sourate maintenant? Voilà, les hommes sont arrivés sur la Lune. Alors le recteur de l'université a répondu, oh, il ne faut pas prendre ça à la lettre, ça veut dire quand les poules auront des dents. Alors le journaliste lui a dit, oui, mais sur le drapeau de l'islam, il n'y a pas une poule, il y a une lune. Je vous dis bien.
Mais ne passera pas, c'est à quel sens que vous prenez?
Ça veut dire que l'islam est éternel, de la même manière que jamais les hommes n'arriveront sur la lune. Oui, que jamais les hommes n'arriveront sur la lune. Donc, les mystiques de l'islam savent que l'islam a 14 siècles, et ils le savent, et on est dans la fin de l'histoire de l'islam, comme on est dans la fin de l'histoire de Rome d'ailleurs. Mais enfin, les deux conflits avec Israël sont jumelés aujourd'hui de notre temps, c'est clair.